L'histoire de la cave, bon, ben, on a parlé du lait là tout à l'heure au petit déjeuner. Donc le lait que vous boirez demain matin au petit déjeuner vous l'avez acheté à Laït. Laït, c'est une ferme qui a, quand on part par là, donc quand on longe le Salat et qu'on remonte, c'est une ferme qui a en haut des coteaux, qu'on voit de la route. Donc si vous allez vers Bonrepos, vous allez la voir forcément. Eh bien, le village de la Cave, avant, était à l'emplacement de Laït. Alors quand j'ai dit avant, je m'aperçois en même temps, c'est pour ça qu'il faut que vous me réveilliez de temps en temps. Avant, c'était quand? C'était en 1273. Et la date est facile à se souvenir, la date de la création du village de la Cave sur son site actuel, c'est-à-dire où vous êtes aujourd'hui, c'est le 11 septembre, un jour bon, qui a pris une importance très grande ces dernières années, mais là c'était 1273. Donc la cave a été créée en 1273. Alors, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Ben, c'était des groupes de personnes qui étaient principalement des agriculteurs. Et bon, 1273, c'est le Moyen Âge, c'est l'époque de la création des Bastides. Laït, si vous voyez Laït, c'est en haut d'une colline, donc c'est un endroit un peu en hauteur, donc protégé. Mais par contre, ça pose un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes de... il n'y avait pas d'eau à proximité, donc l'eau c'est la vie, il y avait un certain nombre de choses. Et il y a trois nobles, trois seigneurs, qui ont décidé de créer le village dans un endroit qui était un peu plus agréable, qui était plus adapté. De ces trois seigneurs, il y en avait deux qui amenaient la terre, c'est-à-dire qui avaient en propriété les terres qui constituent aujourd'hui le village, et le dernier qui, lui, amenait autre chose, c'est-à-dire un moulin, quelque chose d'essentiel là aussi, parce que c'est la farine, parce que c'est le pain, c'est bon. Et un château, parce qu'à cette époque-là, eh bien, c'était une époque de nobles qui n'arrêtaient pas de se battre entre eux.
Le village de la Case était un village tout à fait agricole. Puis, dans les années 1860, l'usine à chaux et ciment s'est installée à la cave. Il y avait également une briqueterie et ça a donné du travail aux agriculteurs. Et puis, ils ont fait venir une main-d'œuvre espagnole qui a fait souche d'ailleurs. Et donc même des descendants est devenu député et maire de la cave, de Saint-Giron. Ensuite, la guerre de 14, quand même, il y a eu, je crois qu'il y a 17 morts. Donc, ça a vidé le village des jeunes. Et puis après, les enfants sont partis travailler en ville. Une partie se sont fait fonctionnaires ou autre chose. Et puis ils reviennent maintenant en retraite. Il y a eu l'épidémie de choléra, mais enfin, qui avait ravagé tout le midi de la France. Et c'est pour ça qu'on a construit deux chapelles dans les années 1856-60.
Je m'appelle Lagarde Abel, musicien, premièrement. Près du conservatoire de 52. De Toulouse. Là, depuis que je me suis pendu à la cave, depuis le mariage. Et parce que je me suis marié à la cave. Et j'étais natif de Mane. Je suis né en 30. Vous savez, dans plus de 50 ans, 55 ans de mariage, et je pourrais dire beaucoup de choses sur le village. Seulement, j'ai été conseiller municipal, comme toujours. Des petits villages comme ça, il manque des candidats, j'en étais à l'époque.
Je suis M. Martin, j'habite le village de la Cave. Depuis 72 ans, c'est pas d'aujourd'hui, je suis né ici. Tout à fait, vous êtes là-bas en campement, le bâtiment, le grand bâtiment en face.
Moi, je suis Monsieur Garcia Joseph. Comme je vous disais, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants et marié depuis 1954.
Né à la cave, par contre, ma famille avait des attaches à la cave et j'y suis venu tout petit. Je venais en vacances, comme vous. J'avais des copains. Pour moi, c'était la liberté. Je vivais à Toulouse. Hein. C'était la liberté. Ici, vous avez vu la structure. Ben, on jouait. Alors, nous, on jouait pas au parc parce que le parc était privé à cette époque-là. Et quand on arrivait à rentrer, on se faisait jeter violemment. Mais par contre, bon, on pouvait circuler en liberté dans un village. Bon, il n'y avait pas de danger pour les enfants, d'une part, parce que tout le monde se connaissait. Il y avait un certain... Tout le monde... En fait, tous les parents surveillaient tous les enfants. Et donc, ça se passait, c'était un espace de liberté que je n'avais pas à Toulouse. Mais à cette époque-là, vous avez vu qu'il y a des barres de fer dans le mur du parc. À cette époque-là, alors, ce n'était pas un grillage qu'il y avait. Parce que le grillage que certains ont enlevé ce matin, c'est moi qui l'ai mis pour pas que... Pour pas que le chien saute, c'est tout. Mais c'était relié par des barres de fer et des piques, des petites piques. Il y a beaucoup de... Il en reste quelques-unes en face. La grande maison qui est en face, vous verrez, il y a une partie où il reste une barre de fer et puis des petites piques comme ça. Voilà. Donc ça, c'était une manière de délimiter les propriétés.
L'usine était implantée comme elle est actuellement, il y a encore la bâtisse, et à côté, il y avait ce qu'on appelait un baraquement. C'était des maisons en enfilade qui se tenaient, et là logeaient les ouvriers, certains ouvriers de l'usine. Et mon père, à l'époque, travaillait à l'usine. Il a travaillé, il est venu d'Espagne en 1920. Il est venu ici. Il est reparti en 1928. Il est reparti en Espagne. Il s'est marié là-bas et il est revenu ici. Et on a habité, justement, dans ces baraquements. Et moi, je suis né là-dedans. Bon, je suis né là-dedans, mais... J'avais 6 mois, oui, 6 mois, lorsqu'on est allé habiter Prat. Et mon père travaillait dans une autre usine à chaud, qui était à Prat.
Ah ben sur le village, c'est le village où je suis né, c'est le village où je passais mes vacances. Seulement à l'époque, comme toutes les familles étaient des familles paysannes, et bien les enfants gardaient les oies, les labouraient, aidaient aux travaux des champs pendant les vacances. Et nous amusions le soir et le dimanche. Et nous étions aussi sous la surveillance de 3 personnes, le curé, l'instituteur et les parents. Alors, si l'un constatait une bêtise, on nous donnait une gifle, l'autre en donnait 2, et on n'allait pas répéter au troisième qui nous en aurait donné 3.
deux écoles, trois même. Parce qu'ici, il y avait une classe, les fins d'études, parce que je ne me souviens pas combien nous étions en classe, mais. Et puis là-bas, où vous êtes là, il y a un logement. Vous avez vu? Et puis la bâtisse, pas où la salle des fêtes, mais l'autre avant, où il y a le bonhomme là qui a la voiture rouge, c'était l'école là aussi. Il y avait 2 écoles et une troisième ici qu'ils avaient pris pour école parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre les enfants là-bas. Alors moi, jusqu'au certificat d'études, à l'époque, c'est ça que ça s'appelait, certificat d'études, j'avais 14 ans. Et après, bon, je suis parti dans une école professionnelle et j'ai appris un métier. Voilà.
C'était aller boucher l'évier du voisin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le tout à l'égout. Alors les éviers sortaient, alors avec une pomme de terre. entre autres. Puis on en faisait d'autres aussi. Ben, comme tous les jeunes maintenant. Seulement, évidemment, on ne se saoulait pas parce qu'on n'avait pas les moyens. À part si on pouvait attraper un peu d'eau de vie par là, mais enfin, c'était plutôt difficile.
Oh!
Dans le passé, il y avait deux bureaux de tabac, une épicerie, il y avait un charron, si je me souviens bien.
Mais tout a changé parce que, bon, ça a changé comme partout, quoi. C'est la civilisation qui a évolué. C'est-à-dire que le village était agricole jusqu'en 1939, puis après cette guerre-ci, avant la guerre de 14, bon, ils étaient à peu près tous agriculteurs, mais de très très petits agriculteurs parce que les terres appartenaient une part au château de Prates, une grosse partie. Et donc il en restait assez peu pour les agriculteurs, quoi. Et beaucoup allaient travailler à l'usine, où on participait à la construction de l'usine, ce qui leur faisait des revenus supplémentaires. Oh, ils cultivaient, ils avaient 2-3 vaches, 4 vaches, ils vivaient d'un peu de lait, de quelques pommes de terre, et qu'est-ce qu'ils avaient ? Un peu de vin, ils avaient tous des vignes. Mais enfin, c'était plutôt la misère. Bien entendu, il y avait un café quand même, et même il y avait au début du siècle de boulangerie, au début du XXe siècle. Il reste un agriculteur qui est à Laïte, à la ferme de Laïte, un autre qui est représentant et agriculteur, et puis les autres vont travailler, ceux qui travaillent, ceux qui ont du travail vont travailler à Toulouse. Il y en a 3 qui travaillent à Toulouse et qui rentrent le soir, et les autres parlent en la région, quoi. Oh, la population, oui, tout a changé ici. Maintenant, il n'y a que des retraités presque. Et puis quelques personnes qui vont travailler, quelques jeunes qui vont travailler, comme le maire, qui est ingénieur à Toulouse, mais enfin, il rentre le soir. Ils sont 3 ou 4 qui partent comme ça.
Développer le village et on a fait un PLU, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme. Et ils ont déterminé 3 zones constructibles dans le village qui sont une derrière, sur les coteaux, une de ce côté-ci et l'autre à l'autre extrémité. Et on espère peut-être un jour avoir des gens qui achèteront des terrains, qui construiront et qui viendront habiter la cave. Et pour repeupler le village un peu, parce que 116 habitants, bon, c'est pas beaucoup, quoi. Le malheur, c'est que tout a disparu. L'école a disparu, les épiceries ont disparu, l'église, bon. Ça fait que, bon, des activités, il n'y en a pas, quoi. Sauf qu'il y a 2 agriculteurs, disons, qui travaillent un peu la terre que 7 ou 8 agriculteurs travaillaient à l'époque.
Parce qu'il faut faire la fête au village chaque année. Faut pas la rater. Alors faut qu'il y en ait qui la prépare.
Hein. Voilà, on a grandi ici, donc faut prendre le relais des anciens.
Avant, on était. Avant, il y avait Christophe qui venait, qui avait notre âge, nous, on était pitchounes, et voilà.
Oui,
et
mon frère, c'est une partie de nous, là. La fête à la cave, c'est une partie de notre jeunesse. C'est nos racines, nos. On a toujours fait la fête, toujours de bonne ambiance, on a toujours de bons souvenirs. Voilà. Les grands, les anciens, tout le monde, toutes les générations confondues. C'est ça qui est bien ici. Tout le monde se mélange à la bonne ambiance. Voilà. Et ça a toujours été ça. Il faut perpétuer la tradition. C'est une partie de nous, sinon qui va mourir. Voilà.
Si tous les gens se réunissent, voilà. On ne se voit pas forcément toute l'année.
Voilà, Christophe, on ne le voit pas souvent. Ouais.
C'est une occasion pour voir tout le monde.
C'est vrai, mais attends, je suis plus là.
Il n'est plus là, voilà.
92 ans pour ce week-end.
Ce week-end-là, il y a tout le monde qui revient.
C'est le rendez-vous.
Il y a des gens de Paris, il y a des gens de un peu partout en France qui sont rattachés à la cave, qui reviennent ce week-end-là faire la fête, tous se réunir pour tous se retrouver, voilà.
C'est la date, le 14 juillet.
Parce qu'on en avait marre d'habiter en ville. Parce que on avait envie de pouvoir faire du jardin.
Moi, alors moi j'habitais à la campagne quand j'étais petit. Et je suis arrivé à la ville pour faire mes études et du coup c'est plutôt naturellement que je suis revenu habiter à la campagne. Parce que la ville c'était plutôt imposé pour aller faire des. Je suis allé à la grande ville quoi, pour faire des études. Et donc j'ai habité à Toulouse pendant un moment, à Lyon aussi, des grosses villes. Et donc c'est naturellement que je suis revenu à la campagne et vers les montagnes, parce que je suis plutôt des Alpes. Mais Pyrénées c'est sympa aussi. C'est pas trop mon trip là, à la ville, il y a trop de monde, de bruit, de voitures. Moi je préfère prendre mon vélo et venir. Même s'il y a moins de gens, moi je préfère la campagne, oui. J'ai plus l'habitude. J'ai peur en ville, il y a trop de gens. S'il y a quelque chose à changer, ouais, ce serait bien un petit bar, ouais. Il paraît qu'on habite dans l'ancien bar du village, ou l'ancienne supérette. Une supérette ou un bar ou un lieu où on puisse aller boire des coups, ce serait sympa, ouais. Si j'avais quelque chose à demander, à changer, sur la place, là. Parce que cette place, elle est bien, mais elle manque...
Manque un peu d'animation.
Ouais, elle manque d'animation. T'as dû le voir.
La cave est un pays de batellerie. C'est-à-dire qu'à la cave, il y avait des fabricants de bateaux. On retrouve sur les registres d'état civil des gens, vous savez, sur les registres d'état civil, on enregistre les naissances, les mariages, les décès, et en même temps, sur les divers actes, on met la profession des gens. Donc là-dessus, on retrouve des gens qui étaient charpentiers pour bateaux, et qui faisait donc des bateaux. Le chiffre, il y a un chiffre qui circule, 140 bateaux fabriqués par an à la cave au moment de la Révolution. Ça va vous choquer certainement, est une rivière navigable et classée toujours comme rivière navigable jusqu'à Torignan-Castette. Alors, la particularité quand même des bateaux qui étaient... Alors, je vous parlerai un peu pourquoi c'était navigable et comment c'était navigable, mais c'était une activité très très forte. Donc, la cave a un port. On vous parlera encore, les vieux, même les gens... De manière courante, vous parleront du port de la cave. Du port de la cave et du port de Bon Repos au-dessus, on retrouve des traces de personnes, qui se sont embarquées pour l'Amérique. Alors par contre, le Salat est un torrent. C'est quelque chose qui coule assez vite, qui a un régime très irrégulier. Et la grande particularité des bateaux qui étaient fabriqués à la cave, c'est que ces bateaux-là, était fabriqué à la cave, il descendait le Salat, mais jamais aucun ne l'a remonté. C'est-à-dire qu'on partait de la cave vers Toulouse et on vendait au fur et à mesure. Bon, les barques partaient, elles étaient vendues et utilisées par la suite, elles étaient très souvent complétées et elles transportaient de la marchandise, bien sûr. Et les gens qui avaient avec les barques, et je vais vous parler de radeaux tout à l'heure, les gens qui avaient avec ces barques et avec ces radeaux, eh bien, remontaient à pied, à pied, le long du fleuve. Alors, ces radeaux, ça s'appelle des raïx. On trouve les mêmes de ce côté des Pyrénées ou de l'autre côté espagnol. C'est des troncs d'arbres qui sont assemblés. C'était des troncs d'arbres, donc, qu'on assemblait ensemble. Alors, ce qui se passait... Et là, on va rester sur l'histoire locale. C'est que dans les forêts, donc de côté montagne, au-dessus donc de Torignan Vieux et sur toutes les vallées, les gens coupaient des arbres Et comme ils font au Canada, eh bien, il est balancé dans les ruisseaux et dans les rivières et dans le salat. Et tous ces troncs d'arbres qui descendaient étaient arrêtés à Torignan Vieux, c'est-à-dire à 10 km en amont sur le salat. Voilà. Là, ils étaient rassemblés, ils étaient arrêtés, donc ils étaient rassemblés en radeaux. Les radeaux, là on les voit vides, étaient chargés de beaucoup de minerais de fer qui étaient descendus jusqu'à, donc là par contre, par voie terrestre, qui étaient chargés sur ces radeaux et qui desservaient les industries qu'il y avait au-dessous. Il y avait du marbre et il y avait aussi du minerai d'argent.
Le train est arrivé dans les années 1850. Et à ce moment-là, ma famille avait une filature qui tournait avec une roue à aube sur le salat. Et mon arrière-arrière-grand-père a été exproprié et il a été construire deux maisons qu'on appelle les Marettes. Enfin, il y en a une qui est encore debout sur le flanc de Mauvesin en face. Et ensuite, on construisait aussi des barques à la cave. Dans les années 1850, je crois, on en construisait, je ne me rappelle plus si c'était 120 ou 140 par an. Et ces barques descendaient à Toulouse et on tirait du sable à Toulouse avec ces barques. Et quand elles descendaient, elles emportaient les gens du village qui descendaient avec, parce que le lit du salat à l'époque était navigable. C'est-à-dire qu'on entretenait le centre du lit, on enlevait tous les cailloux et on descendait à Toulouse rapidement, quoi. D'ailleurs, ma mère y est allée en 1913, elle m'a toujours raconté. Ça a été son premier voyage.
L'usine, elle existe aux environs de 1900. Et après, c'était un grand patron qui l'avait exploité. Il y avait une centaine d'ouvriers à l'époque. La guerre d'Espagne, quand nous entendions les canons et tout ça, tous les Espagnols, les républicains, sont arrivés tout le long des Pyrénées là. Et il fallait leur donner du travail. Et il y avait une centaine d'ouvriers.
Seulement, comme il fallait un certain nombre de personnes, quand les immigrés espagnols sont venus, ils se sont embauchés directement ici dans l'usine, puisqu'il y avait des bâtisses sur lesquelles ils pouvaient compter et être logés. Alors, ils se sont embauchés à l'usine, là, et puis ils ont travaillé jusqu'au jour où ils ont pris la retraite, ou alors qu'il y a eu des licenciements au point de vue travail. Ceux qui habitaient le village sont restés là, mais tout le monde n'habitait pas le village. La commune avoisinante, Prato, ou la Bastide, ou Mauvesin, ou même Saint-Giron. Oui, non, ils ont eu des maisons à eux, quoi. Ils ont construit et puis ils ont loué en dehors de l'usine.
C'est une photo ancienne de l'usine de la cave et vous voyez. Ici, là, c'était la carrière. Vous voyez qu'elle est très petite. En réalité, maintenant, tout ça, pratiquement tout ça a été mangé et tout ça. Donc, elle est beaucoup plus large, elle s'élargit et s'étend beaucoup plus. Ici, vous voyez, ce bâtiment-là a été détruit en 2000 pour permettre le passage d'une prochaine deux fois de voie. Ce que vous voyez, ce qu'il y a d'important, ça, alors, ça a changé. Il y a juste les bureaux actuellement. Ici, vous voyez un grand bâtiment. Ce grand bâtiment, ça s'appelait le baraquement. Vous risquez d'avoir des gens qui vous en parlent sur la cave. Parce que c'était des logements ouvriers. Ici, là, juste derrière, vous avez un grand bâtiment. Ce grand bâtiment s'appelle la caserne. Il n'y avait pas de soldats. C'était uniquement des gens de l'usine qui travaillaient. À peu près sur le centre du village, vous voyez, quand on prend le chemin du parc, un peu plus haut, il y a une maison. Et juste en face de cette maison, il y a une, des bâtiments qui rejoignent, donc il y a un jardin, et puis après il y a des bâtiments qui, en long qui rejoignent la rue principale. Ces bâtiments-là, c'était des bâtiments ouvriers. Sur la caserne, alors je ne sais pas s'il y avait, il y a quatre appartements en bas et quatre appartements en haut, ou si c'est trois, hein, mais c'est trois ou quatre appartements. Il y avait donc six ou huit familles qui vivaient. Alors il faut voir que les conditions de vie, c'était deux pièces généralement. Une pièce de vie et une pièce dortoir. Parents, enfants, tout le monde. Les salles de bain, on n'en parlait pas, c'était pas l'époque. Hein.
Des petits jardins qui appartenaient évidemment aux locataires qui étaient dans les bâtiments de l'usine là. Mais en fait c'est pas très important hein, parce que c'est tout de la pierre et de la roche, alors ça fait qu'il y avait très peu de terre, il n'y avait pas beaucoup de légumes ou de trucs qui pouvaient pousser là-dessus. Il y avait un compresseur et il y avait un marteau piqueur avec des burins. On faisait des trous d'une certaine profondeur. On mettait un détonateur, de la dynamite. On remplissait le trou de terre en le tassant un peu. Et puis après, on mettait avec une mèche et on mettait le feu à la mèche. Et quand elle arrivait au détonateur, ça explosait. Ça permettait à la pierre d'être projetée en dehors de la carrière. Et en bas se trouvaient des gens qui ramassaient cette pierre à coups de fourche, chargeaient dans les wagonnets et l'amenaient au four pour la cuisson de ce matériau, qui, une fois cuit, était sorti des fours, était mis dans des silos avec arrosage, et ça servait, comment dirais-je, à la fabrication de la chaux que l'on employait pour faire les murs, ou du béton, ou du mortier, ou des trucs comme ça. Et alors, ça se traduisait par la fermeture au moment de l'explosion de cette mine, de la route 117, d'un côté et de l'autre. Le responsable de la carrière sifflait, et au coup de sifflet, toute la circulation était arrêtée, ça a explosé, et une fois l'explosion faite, la circulation était remise en route. Actuellement, elle est fermée depuis une dizaine ou douze années, parce que la productivité n'était plus bonne, les matériaux n'étaient pas en état, et puis ce n'était plus rentable. Et puis elle a été démolie, donc, pour la future deux fois de bois.